France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Il y a des gens qui parlent pour ne rien dire, et parfois qui écrivent avec le même résultat. En soi, c'est assez plaisant à pratiquer et à écouter parce que ça repose. Et puis, il y a des aventures littéraires qui nous conduisent dans la profondeur du temps, des langues et des langages. Patrick Chamoiseau est conteur et fou d'histoire entre l'universel et la Martinique.
Puisque nous voilà à la Martinique, c'est le moment de donner une biguine.
Sayo Kadia, Sayo Kafeya, Sayo Kadia, Sayo Kadia, Sayo Kafeya, Mettez piment dans la coque là, mettez guetté dans le
Patrick Chamoiseau, bonjour.
Bonjour.
Fallait bien une biguine pour commencer.
Oui, c'est génial.
C'est quoi la biguine pour vous ?
La biguine, c'est la base de la musique urbaine martiniquaise. On a deux tronçons de musique. Celle qui est née dans les plantations et qui était à base de polyrythmie africaine, avec beaucoup le tambour. Et dans les villes se sont déployées des mélodies, toujours sur la base d'une polyrythmie. Mais là, on avait tous les instruments que les marins amenaient, mandoline, banjo, et puis piano, enfin bon. Et la biguine est essentiellement urbaine. Il semblerait qu'elle soit née dans la ville de Saint-Pierre, bien longtemps avant l'éruption. Mais enfin bon, l'affaire est disputée entre la Guadeloupe, la Guyane. Pourquoi ? Parce que les marins circulaient beaucoup. Donc ils peuvent entendre dans un cabaret une mélodie ou un rythme. Et puis c'est rapidement emmené à Pointe-à-Pitre ou à Cayenne. Mais ce qui est sûr, c'est que la ville de Saint-Pierre avait un opéra et que les lavandières aimaient beaucoup les opérettes. Ce qui fait que les petits refrains d'opérettes, etc., ça a structuré la biguine. En tout cas, c'est l'âme urbaine de la Martinique.
Quand je vous pose la question, Patrick Chamoiseau, sur ce qu'est la biguine, vous me répondez par l'histoire de la biguine, parce que vous êtes dans une émission d'histoire ou parce que c'est un automatisme ?
Ah non, parce que le problème qu'on a eu, c'est que ce qui servait d'histoire chez nous, c'était l'histoire de la colonisation. Et chaque fois que j'essaye de voir quelle serait l'histoire qui serait sous l'histoire de la colonisation, on retombe dans des dynamiques populaires. D'ailleurs, une fois, on m'avait demandé de raconter la ville de Saint-Pierre, l'histoire de la ville de Saint-Pierre. C'était une commémoration, je sais pas, un centenaire de l'éruption. Et ce que j'ai proposé, c'est l'histoire de la biguine.
Ah oui.
L'histoire de la biguine, pour moi, permettait de raconter toutes les dynamiques populaires qui s'étaient passées dessous l'histoire coloniale. Parce que c'est ça la difficulté que nous avons. Nous n'avons pas d'histoire officielle. Notre histoire, enfin, ce qu'on appelle l'histoire de la Martinique, c'est l'histoire de la colonisation de la Martinique. C'est ridicule.
Bah oui, c'est ridicule. L'élève Patrick Chamoiseau, à l'école, était attentif au moment des cours d'histoire.
Ah oui, oui, mais j'ai eu le temps de réciter nos ancêtres les Gaulois, hein, je me souviens, et sans aucun problème. Ça nous paraissait absolument naturel dans les livres de l'histoire scolaire. D'étudier les Gaulois, le village, etc., les moustaches, enfin bon, c'est beaucoup identifié à toute l'historiographie coloniale.
Il y a du plaisir aussi, c'est une histoire qui est
racontée.
Ah oui, il
n'y avait pas de problème, l'aliénation était tellement forte, et puis les colons ne considéraient pas, même ceux qui, mes parents, ne considéraient pas qu'il y avait une émergence culturelle ou civilisationnelle dans ces pays. Les références pour ces gens-là, c'était les sources originelles. Donc l'Afrique avait été complètement éliminée, donc elle disparaît des mémoires. Ne restait que la mémoire française et l'histoire française et les programmes scolaires français. Donc on se vivait comme français. Ça a d'ailleurs été un choc pour beaucoup d'Antillais qui découvraient qu'ils n'étaient pas tellement français quand ils arrivaient ici, du fait du phénotype, il y avait une distance qu'ils découvraient. Mais tant qu'on était là-bas, il y avait une aliénation profonde.
C'est incroyable, vous allez à rebours de ce que nous pourrions imaginer aujourd'hui au XXIe siècle en se disant mais il y avait la conscience toujours des origines africaines, etc. Vous dites que non, c'est pas une évidence dans la construction, dans l'identification des gens.
C'est-à-dire que après il y a une opinion collective, une doxa qui s'est imposée, très largement intériorisée par les élites, et puis progressivement il y aura une petite conscience qui va apparaître. La toute première conscience qui va apparaître, ce sera une volonté de récupérer la mémoire de l'Afrique. L'Afrique était complètement gommée par l'histoire coloniale, donc on a eu des cercles littéraires, on s'intéressait aux Noirs américains, on a eu les sœurs Nardal qui faisaient des salons, et les sœurs Nardal, leur spécialité, c'était de retrouver une sorte de fraternité africaine sur toutes les Amériques, la Caraïbe. Donc ça commence plutôt par la récupération de la source perdue africaine. Mais quant à penser que sur place, il y avait eu un maelstrom anthropologique, culturel, mémoriel, historique, qui allait donner un surgissement différent, un peuple-nation, composite, ça, personne, il aura fallu du temps pour y penser.
Pour vous, personnellement, Patrick Chamoiseau, la conscience de cette histoire apparaît quand ?
Alors, elle apparaît quand je commence à lire. Je lis beaucoup, mais je ne lis que la littérature française. Mon univers, c'est les sapins, la neige, les bottes de foin, etc., etc. Et puis, à un moment donné, je commence à vouloir trouver des références du pays. Donc, je me rends dans la bibliothèque Schellcher, c'est une bibliothèque départementale, un très beau bâtiment. Et là, je trouve un conservateur, et tous les livres qui parlaient des Antilles, il les avait mis dans une armoire comme un objet précieux. Tout le reste, c'est l'océan des ouvrages qui viennent d'Europe. Et puis, il avait répertorié tous les petits textes qui parlaient des Antilles. Et dans les textes qui parlaient des Antilles, bon, je m'intéressais pas beaucoup à l'histoire à l'époque. C'était plutôt la poésie. Et là, je tombe dans la poésie locale, ce qu'on a appelé les poètes doudouistes, qui décrivaient le paradis, les oiseaux, les petites fleurs. Et j'étais absolument content de retrouver des odeurs du pays, le manguier, le cocotier, enfin bon, tout un univers qui me manquait énormément, parce que mon univers était complètement, complètement occidental. Et puis progressivement, à mesure que la conscience va s'affiner, que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, je vais partir à la recherche de l'histoire. Enfin, d'où on vient, hein, qui et quels sommes-nous ? Et là, la question n'est pas traitée. Pourquoi ? Parce que je ne rencontre que la chronique coloniale. C'est-à-dire que ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire. Donc, on avait tous les abbés savants, le père Labat, le père Duterte, enfin bon. J'avais aussi tous les anonymes. Beaucoup de marins, à l'époque, écrivaient des mémoires, écrivaient des récits de voyage. Donc, je me suis plongé dans cette historiographie, mais qui était essentiellement coloniale, et qui nous racontait comment l'Europe avait débarqué. Et ce qui est assez frappant dans cette chronique coloniale, c'est que d'abord, tout ce qui existe avant leur arrivée est inexistant. Et quand ils commencent à en parler, par exemple les anonymes, les marins qui racontent leur contact avec les Amérindiens, ils ont une vision complètement faussée de ce que sont les Amérindiens. Ils ne comprennent pas, ils s'en méfient, ils ne comprennent pas leur temporalité. Je me souviens qu'il y en a un qui dit « mais ces gens-là sont étranges, ils peuvent se lever le matin et puis rester devant la rivière ou la mer pendant des heures à contempler l'océan. » Ils n'étaient pas dans la temporalité amérindienne. C'est assez fascinant. Ce qui fait que Et tous ces textes, toute cette chronique coloniale nous montre quoi ? Nous montre que la colonisation a été la dynamique de la globalisation, mais dans la colonisation, il n'y a pas eu de rencontre. Il y a eu choc, il y a eu contact, il y a eu mise sous relation, il y a eu conquête, domination, il y a eu réification du vivant, il y a eu génocide, mais il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'attention portée à ceux que l'on rencontrait, portée à la différence. La différence n'était pas, n'était pas envisageable. ce qui avait différence, c'était que c'était en dehors de l'humanité. C'est ça le grand drame de la première histoire coloniale. Et toute la difficulté qu'on a eue, c'était de se nourrir de ça pour comprendre comment tout cela s'était composé. Et malgré ça, j'ai quand même énormément lu, surtout les abbés savants, surtout un qui s'appelle le Père Labat, qui a écrit Les Nouveaux Voyages aux Amériques. Mais c'est une mine absolument incroyable parce que c'est un savant botaniste, constructeur, colonialiste, esclavagiste. Enfin bon, c'est un personnage absolument incroyable. Et puis en plus, il aimait manger. Ce qui fait qu'il y a une mine de renseignements dans le Père Labat, parce qu'il répertoriait le réel comme ça, de manière complètement cynique. Hein. Il ne voit pas des êtres humains, il voit des êtres, etc. Mais il le fait avec une telle minutie, une telle gourmandise, une telle curiosité, que pour nous, ça a été un trésor absolument inestimable. Et tous mes textes romanesques sont très nourris de la chronique coloniale, enfin, des renseignements que j'ai pu tirer de cette trajectoire-là.
Ah oui, c'est ce que l'on repère dans vos œuvres, hein, Patrick Chamoiseau. On pourrait les citer, en citer tant, hein, La matière de l'absence, Texaco évidemment, hein, pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt. Et dans ce que vous nous racontez, j'entends bien qu'il y a l'école, nos ancêtres les Gaulois. Oui. Bon, c'est une chose, il y a ce conservateur de bibliothèque. Les rencontres, elles sont quand même là aussi, parce qu'il y a des mains tendues, et puis il y a la rencontre avec la littérature, avec le livre. Ce livre qui vous transmet la voix des gens du passé. Alors, qui sont-ils, ces gens du passé qui parlent?
Les gens du passé, c'est les gens de France.
Eh oui, c'est ça.
Quand j'ai arrivé en France, je me suis dit plusieurs choses, mais pour moi, j'étais au pays de Montaigne, j'étais au pays de la comtesse de Ségur, j'étais au pays de toutes les lectures de mon enfance. C'était extraordinaire. Je me suis dit aussi que j'étais au pays de Brassens, parce qu'après, j'ai beaucoup écouté Brassens, mais j'étais absolument fasciné de retrouver la terre de ces hommes qui ont peuplé mon univers. Et c'était vraiment une sorte de position schizophrénique. Je vivais aux Antilles, dans les Amériques, mais tout mon imaginaire était complètement installé. Ce qui fait que, quand j'arrive en France, dans les années 70, je vis ce que Glissant avait résumé dans un texte qui s'appelle « Soleil de la conscience ». Je vis l'expérience étrange d'avoir la vision du fils et le regard de l'étranger. C'est-à-dire, je redécouvre, je retrouve, je reconnais cet univers qui a peuplé mon esprit. Quand j'ai vu la neige pour la première fois, je l'avais tellement vu en image et tellement éprouvé comme ça par anticipation que j'étais vraiment dans une extase. Et en même temps, il y avait la vision de l'étranger, c'est-à-dire cette distance qui commençait à s'installer et la problématisation qui allait forger effectivement cette espèce de tension particulière, on est dedans et on est dehors, et la littérature se nourrit bien de ce genre de tension.
Ah oui, vraiment tension. J'aime beaucoup le mot. Mais en préparant cette émission, c'est là, c'est partout en fait, cette tension entre le passé, le présent, et ce passé difficilement accessible, ce passé et ce présent qui ont été réfléchis. Et c'est ça qui est aussi passionnant, hein, avec l'univers. Vous citez Édouard Glissant. Édouard Glissant.
Quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait absolument pas de peintre ou de sculpteur qui retienne l'attention en Martinique, mon pays. Et j'ai toujours réfléchi à ce manque, à cette carence, et je me disais que dans l'univers des plantations où le silence était la règle, où il était interdit aux esclaves d'apprendre à lire et à écrire, je me disais que nous avons développé un art de la parole qui est assez remarquable, un art de la rhétorique qui est assez remarquable, parce que c'était la seule manière que cette population avait de retenir quelque chose de son passé. C'est les contes, les traditions des contes, des soirées de veillée, ou quand on était loin de l'oreille du maître, on se racontait des choses. Et que c'est pour cela peut-être que les Antillais sont de bons conteurs. Et c'est pour cela aussi que peut-être ils appellent les Blancs des oreilles. On disait, fais attention, les oreilles arrivent. C'est-à-dire les oreilles du maître.
Édouard Glissant, 1994, avec l'évocation du silence des plantations et puis toute cette parole portée.
Oui, la parole. C'est-à-dire que s'il fallait chercher de l'écriture, comme on le dit, bon, voilà, il y a toute une historiographie française coloniale, il y a des récits, il y a des choses, mais où sont nos récits? Il n'y en avait pas. Tout était oral. Donc tout était dispersé dans des contes, dans les chansons, dans les biguines, l'histoire était dans les vêtements. Enfin bon, il fallait décoder le réel pour trouver une narration qui n'avait pas été formulée. Et c'est quand même un truc intéressant parce que Glissant, il a développé une notion qui est absolument importante pour nous, qui est la notion de trace. Il disait, attention, pour essayer de retrouver notre histoire, de sous l'histoire coloniale, on ne va pas trouver de monument. L'histoire, le colon avait parsemé tout le territoire de la Martinique avec ses statues, ses noms. Il avait nommé les lieux, il avait renommé les arbres, il avait nommé les fruits. Et puis, on avait tous les grands colonialistes, tous les grands gouverneurs étaient nommés, célébrés, appris à l'école. Et puis, la trajectoire des Amérindiens qui avaient été génocidés, de ces milliers d'Africains qui avaient été esclavagisés dans les plantations, tous ces immigrants qui sont venus de partout au fil des exploitations coloniales, n'avaient pas laissé de monuments, n'avaient pas laissé d'écriture, mais n'avaient pas laissé de monuments. Et avec la notion de trace, c'était intéressant parce que la notion de trace, c'est ce qui s'oppose au monument. Le monument témoigne de la trajectoire coloniale, mais la trace témoigne de la présence amérindienne. Par exemple, quand les colons arrivent en Martinique, a priori, ils voient une espèce de truc volcanique chaotique avec une forêt tropicale, mais ils s'aperçoivent que tout le pays est sillonné par de petits sentiers qu'ils appellent traces, c'est-à-dire les Amérindiens sillonnaient le pays, mais ils sillonnaient le pays de manière très particulière. Les colons vont construire des routes et des chemins pour l'exploitation. Toutes les routes et les chemins vont mener vers le port, alors que la trace amérindienne, elle va dans les profondeurs, elle épouse la forêt, elle cherche les sources, elle va dans les cascades. Donc, on a appris à décoder les traces. Et aujourd'hui, cette notion, on l'a beaucoup développée, la trace témoigne de l'histoire silencieuse, des trajectoires qui n'ont pas de statut, des trajectoires qui n'ont pas de récit historique. Et nous avons beaucoup, beaucoup travaillé cette notion et développé la notion de trace. Et même pour l'historiographie contemporaine, je crois que cette notion est importante parce que même dans l'État-nation occidentale, il y a plein de mémoires, il y a plein de trajectoires, toute la mémoire ouvrière, tous les lieux, etc., ont disparu. Ce qui fait qu'il nous faut, à côté du monument, essayer de penser cette notion de trace. Alors, chez nous, la trace, par exemple, c'est le tambour. Le tambour, c'est une trace. C'est toute la mémoire africaine. La trace chez nous, c'est le coutelas. Un coutelas, ça a tellement accompagné la trajectoire des esclaves qu'on peut développer un récit mémoriel autour du coutelas. Puis, bon, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Certains arbres, comme le fruit à pain. Le fruit à pain, c'est un arbre qui a été essentiel pour les esclaves parce que après l'abolition de l'esclavage en 1848, beaucoup de descendants d'esclaves ont quitté la plantation et ils refusaient d'aller travailler pour les béquets, pour les planteurs. Et pour éviter d'avoir à travailler, ils ont planté l'arbre à pain qui donnait des fruits tout le temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, les béquets se sont mis à couper les arbres à pain pour obliger les esclaves à revenir. Donc quand vous avez la trace à côté de l'histoire, c'est important parce que ça vous permet de développer un récit mémoriel absolument essentiel. Ce qui fait que nous, dessous l'absence d'histoire et dessous la mémoire perdue, la mémoire diffractée, la mémoire diffusée en traces, il nous a fallu construire comme ça ce récit mémoriel. La mémoire est importante. La mémoire, on a commencé à notre réhumanisation par une récupération de la mémoire. C'est vrai que l'historien vient après. Après, on aura nos historiens qui vont, avec une approche scientifique, essayer de faire la part des choses. Mais le problème de l'historien colonisé ou antillais, c'est qu'il n'a pas de documents. Tous les documents sont coloniaux. Personne n'a interrogé les esclaves, personne n'a interrogé les Amérindiens. Donc, il y a un grand vide. Et c'est là que le principe littéraire est intéressant parce que la puissance littéraire permet à la fois de développer une trajectoire mémorielle, ce que les gens se souviennent, enfin des perceptions un petit peu subjectives. Quand j'écris Texaco, c'est beaucoup le récit de ma mère, comment elle a quitté la campagne pour venir en ville. Donc il y a une dimension mémorielle qui est là, qui est sensible, qui rentre comme ça, qui vit avec les traces. Et puis il y a tout le travail que nos historiens ont pu faire et qui nous aide comme ça à baliser des choses qui nous renforcent et qui nous rendent quelque chose qui est absolument essentiel, et ça on l'a senti très très vite, c'est que il nous faut raconter l'histoire de la rencontre, c'est-à-dire l'histoire de la rencontre des cultures, des civilisations. Ce qui fait qu'autant l'histoire a été un phénomène national, l'histoire nationale, bon, etc. Aujourd'hui, la problématique historique, c'est que nous avons besoin des historiens de la relation. Et il nous faut raconter, par exemple, l'histoire de la Martinique. Pour raconter l'histoire de la Martinique, une histoire qui serait scientifique, il nous faudrait partir des histoires amérindiennes, y ajouter toutes les histoires coloniales, enfin avec toute la profusion coloniale qui s'est faite, toutes les immigrations, etc. Et étudier, rentrer dans les phénomènes interrétroactifs qui vont donner la Martinique. Glissant disait, quand les histoires des peuples se rencontrent, finit l'histoire avec un grand H. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a, donc on a besoin d'une histoire relationnelle dans la plupart des pays d'Amérique ou d'ailleurs, mais aussi, on a besoin d'un récit mondial, d'une narration mondiale qui ne soit pas le récit occidental. Le récit occidental, c'est un récit qui est au service du pouvoir occidental. Tous les récits sont au service d'un pouvoir. Les grands récits, c'est des systèmes de pensée et des pensées de système qui nous emprisonnent dans des réalités un petit peu étroites qui sont un petit peu une sorte de monologue. Aujourd'hui, l'histoire du monde, le dire du monde est donné par le discours occidental et la plupart des historiens se mettent encore dans cette espèce de solitude occidentale racontant le monde. Il y a des gens comme Patrick Boucheron ou Senghor Ravelou qui sont en train de faire un travail très très intéressant. Ils ont compris que nous avons besoin, puisque nous habitons aujourd'hui la planète, nous habitons à l'échelle du monde, et l'histoire dont nous avons besoin, donc ce travail scientifique dont nous avons besoin, ne peut être qu'un organisme narratif où tous les récits, toutes les trajectoires, toutes les visions, toutes les traces se trouvent à part égale et témoignent d'une espèce d'avancée qui concerne pas seulement la trajectoire humaine, mais tout le vivant, tout la biosphère, tout le métabolisme planétaire et tout notre rapport au cosmos. Et ça, les grands enjeux narratifs à venir sont des enjeux d'une histoire relationnelle.
Une histoire créole presque. Mais je comprends pourquoi vous mettez une majuscule au mot trace, Patrick Chamoiseau. Parce qu'on
voit bien l'importance. C'est un vrai concept et qui intéresse beaucoup les historiens d'ici et puis surtout ceux qui définissent le patrimoine. Parce que si on a une définition classique du patrimoine, on ne retient que les monuments. Alors que la trace, elle peut être très légère, elle peut être invisible, elle est très très particulière. Et j'aimerais bien écrire, si j'avais le temps, une sorte de, je dirais, de géographie de la trace, comment ça peut être, comment ça peut fonctionner. Mais en tout cas, ça nous préserve des grands récits et des récits dominateurs.
Que peut littérature quand elle ne peut ? Patrick Chamoiseau, vous publiez cet essai au Seuil et dans cette réflexion-là, il y a aussi toute la violence du monde qui apparaît.
Exact, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de... La littérature, son objet, n'est plus tellement un objet national, etc. C'est l'objet... Ça raconte aujourd'hui la trajectoire individuelle, l'artiste est seul, il a été éjecté des communautés traditionnelles. Moi, je suis martiniquais, mais mon écriture ne représente ni la Martinique, ni le phénotype nègre, ni la colonisation. Enfin, mon écriture ne représente que la trajectoire d'un individu, d'une conscience, au départ un pays colonisé, et qui découvre le monde, et qui essaie de se construire dans un rapport au monde. Ce qui fait que le champ de conscience est désormais élargi à l'échelle de la planète. Et quand on élargit le champ de conscience à l'échelle de la planète, en évitant la superstructure occidentale, en essayant d'être sensible aux traces, à toutes ces traces comme ça, silencieuses, oubliées, souffrantes, on devient très très proche des peuples abîmés, des langues qui disparaissent, des effondrements de toute la richesse de l'Homo sapiens. Et à ce moment-là, ça fait, je dirais, ça fait une présence au monde horizontale. Et par exemple, l'humanisme dont nous avons besoin aujourd'hui face à au grand récit de Trump, une sorte de récit brutal, passéiste qu'on a connu dans la proto-colonisation, nous avons besoin d'une perception du monde où toute la sphère du vivant enveloppe comme ça la présence humaine, d'un humanisme qui serait dans une horizontale plénitude du vivant. Nous avons besoin aussi d'une culture urbaine, puisque nous sommes en train de basculer d'un écosystème urbain naturel à un écosystème urbain. Et nous avons besoin aussi d'une culture numérique pour nous confronter à l'intelligence artificielle. Et il nous faut retrouver le vieux rapport que les communautés archaïques avaient avec le cosmos. Donc vous voyez, l'enjeu de la littérature est articulé sur tous ces écosystèmes qui vont entrer dans des phénomènes d'intelligence rétroaction, mais à l'échelle de la planète. Et là, la littérature est précieuse. Pourquoi ? Parce que la littérature fait partie d'un mode de connaissance sensible qui est aussi puissant que le mode de connaissance scientifique. Et on a tendance à penser que les artistes, c'est là une sorte de divertissement, un petit poème pour agrémenter la soirée. Non, ce sont des modes de connaissance extrêmement puissants. Parce que dans la littérature, dans Texaco par exemple, je suis allé dans des endroits où l'historien ne peut pas aller. Dans Dimanche au cachot, je raconte ce que devient une jeune esclave. Les planteurs avaient des espèces de cachots, une petite voûte de pierre dans laquelle ils mettaient les esclaves récalcitrants. Et quand on était enfermé là-dedans, on était dans l'obscurité totale. Alors c'est génial pour l'écrivain, c'est-à-dire on enferme la jeune esclave, elle est dans l'obscurité, elle ne voit pas son corps, elle ne voit rien. Il n'y a rien à raconter. Et c'est là que commence la littérature. Quand la littérature est confrontée à un impossible, c'est là que la puissance créatrice, que la créativité, que l'envie de saisir l'indicible, l'immontrable, etc. commence. Et là, aucun historien... L'historien dira oui, les planteurs avaient des cachots, ils punissaient les esclaves, on a pu repérer, etc. Mais personne ne sait ce qui va se passer quand on a passé plusieurs semaines dans un truc comme ça. Et là, l'écrivain peut entrer, la littérature peut se glisser en dehors des documents d'archives, au dehors des attestations scientifiques, simplement par, je dirais, la sensibilité humaine, la sensation, ce qui produit des images intérieures, toute une subjectivité qui est de l'ordre de l'humain. Comme je suis un être humain, ce que vit un humain dans le cachot sera attesté. Et c'est ça ce que peut la littérature.
Et on comprend pourquoi il y a ces émissions aussi fous d'histoire, parce que Patrick Chamoiseau, vous venez de verbaliser exactement le principe même de cette émission, c'est-à-dire donner la parole à celles et ceux qui ne sont pas historiens. Vous n'êtes pas historien, mais vous portez cette histoire, parce que ce soit Un dimanche au cachot que vous publiez chez Gallimard, ou Texaco que vous avez publié aussi chez Gallimard, on a de l'histoire. Vous donnez de l'histoire, vous donnez la toile de fond de notre imaginaire historique pour ces territoires, et particulièrement la Martinique, là où il n'y a pas de documents, comme vous dites.
Il n'y a pas de documents. Et la littérature mélange à la fois la mémoire et l'histoire. Donc nous avons besoin de la démarche scientifique, nous avons besoin de la pensée scientifique, mais le mode de connaissance sensible est quelque chose de très très particulier. Le mode de connaissance sensible peut s'articuler à partir des traces. Tout peut faire trace, une plante, une odeur, un outil. Et à partir de ça, on peut... Une sorte d'extension. Hein. Je sais pas, j'aime bien l'idée, parce que quand j'écris, je pars d'un petit point. C'est comme si je prenais un mango ou un coco, une noix de coco ou un corossol. Et puis l'idée, c'est d'élargir le corossol dans toutes ses implications, à la fois dans le vivant, mais aussi dans ses implications avec les êtres humains. Et la littérature fait ce travail-là.
La littérature fait ce travail-là, elle le fait de manière très efficace. Que peut littérature quand elle ne peut, Patrick Chamoiseau? J'ai envie de dire que peut l'histoire quand elle ne peut aussi. On pourrait en parler, parce que il y a toute une histoire à construire.
Général Toussaint Louverture, commandant en chef, gouverneur de Saint-Domingue. Toussaint est mon nom, nom d'esclave sur l'habitation de Breda. Tu te tournes vers ton nom d'origine, vers ta mère, vers ta patrie, vers tes ancêtres, et tu n'en as pas. Tu es prisonnier, on t'a tout pris. Tu te tournes vers le souvenir de ta mère, et tu n'en as pas. Tu remontes, tu vois des bateaux qui arrivent, qui viennent d'Afrique. Mais dans le sol du pays où tu vis, pas d'ancêtres, rien, le vide. Alors j'ai donné au mien un drapeau pour patrie. J'ai levé le drapeau de la liberté générale. Et j'ai dit, voilà ta patrie. J'ai dit, tu vas mourir pour le drapeau, pour ta patrie. Ensuite, il y aura des morts dans le sol et des histoires à raconter.
Le comédien camerounais Gérard Essomba avec Toussaint Louverture, ici, nous étions en 1989. Patrick Chamoiseau, ce qui est évoqué ici, c'est très riche déjà, c'est la privation de généalogie, on pourrait le dire ainsi.
Voilà, c'est-à-dire que les esclaves, les Africains sont capturés, ils traversent le gouffre du bateau négrier, et ils arrivent avec des traces mémorielles. Ils n'ont pas des bagages comme les migrants armés ou les migrants domestiques que Glissant a bien spécifié. Ils sont nus, ce sont les migrants. Ils n'ont que les traces mémorielles. Donc il y a une sorte d'effondrement de toute leur certitude et une déconstruction de la mémoire. La mémoire est chictaillée, il n'y a plus que des traces. Et ils doivent recommencer tout cela. Mais ça, c'est intéressant parce que ce qu'ils ont vécu dans la déportation aux Amériques les a forcés à renaître à des constructions collectives, mais pas sur la base des communautés archaïques. La communauté archaïque, c'était mon histoire, mes ancêtres, etc., etc. Ils sont rentrés dans la nécessité d'une histoire relationnelle où toutes les histoires se sont rencontrées sous les modalités de la trace. Ce qui fait que l'idée pour eux, et ils ont essayé, mais un peu comme on a eu les tentatives d'Alex Allais quand il a raconté les racines, donc il a essayé de remonter jusqu'à l'origine, retrouver la famille africaine, etc. Ils ont désespérément essayé de reconstruire le schéma traditionnel. Alors que dans la relation, ce qu'il faut construire, c'est un arbre relationnel. C'est pas un arbre généalogique. Parce que l'arbre, dans la déportation, il y a nécessairement des pertes. Il y a des branches qui sont asséchées, qui ont disparu. Il y a des connaissances et des mémoires qui sont devenues de petites traces un petit peu difficiles à saisir, mais qui sont là, qui vous habitent. Il faut construire un arbre relationnel, c'est-à-dire une sorte de présence très élargie au monde. Très, très élargie, beaucoup plus ouverte, où la présence du colon, la présence de l'acte colonial, la résistance des silencieux, le silence, l'absence, enfin, une construction absolument nouvelle. Et c'est ça la problématique esthétique contemporaine. Il ne faut absolument pas penser que nous allons retrouver les communautés archaïques avec leur histoire très lourde, avec qui s'impose comme ça à des réalités. Nous allons entrer dans des constructions beaucoup plus complexes, beaucoup plus labiles, beaucoup plus ouvertes sur des réalités mouvantes. Et en plus, ce qui va se passer de très déterminant dans les plantations esclavagistes, c'est que l'Africain qui a été capturé et mis en esclavage, il a été arraché à une structure communautaire et il devra apprendre à renaître seul. Et c'est ça qui va donner l'orchestre de Diaz. L'orchestre de Diaz n'est pas un orchestre communautaire. C'est pas une communauté avec une partition, voilà, on est tous en... Non, l'orchestre de Diaz, ce sont des individus qui se sont débrouillés comme ils pouvaient entre les traces mémorielles, comment ils ont pu... Et chaque individuation va se mettre non pas à exprimer une partition communautaire, mais à improviser. Donc chacun aujourd'hui, dans le monde relationnel, nous devons construire notre éthique, nous devons construire notre architecture de principes et de valeurs, nous devons construire notre arbre relationnel dans l'improvisation. Il n'y a pas de partition donnée. Et c'est là que nous avons besoin de l'historien. Et c'est là que nous avons besoin d'une approche scientifique qui est complètement différente. Il nous faut aujourd'hui trouver les nouvelles modalités de société qui seront des sociétés d'individus avec des solidarités différentes et aussi avec des espaces mémoriels et historiques qui sont complexes. Parce que jusqu'à maintenant, la communauté faisait... Vous voyez, il y a beaucoup de colonisés qui se retrouvent en France. Et quand le colonisé arrive en France, il voit les attestations mémorielles et historiques du colonisateur, du vainqueur. Alors celui qui est un héros ici, c'est un assassin de l'autre côté. Et les espaces comme la France et tous les espaces du monde doivent comprendre que les lieux dans lesquels nous allons vivre nos trajectoires individuelles sont des lieux multitransculturels, multitransinstoriques, multitransmémoriels, multitranshistoriques. Enfin, vous voyez, c'est une complexité inouïe. Et ça, c'est la complexité de la relation. C'est ça toute la difficulté que nous avons à penser.
Merci de mettre en avant l'importance de cette histoire au sens de discipline scientifique, c'est la recherche,
oui.
Tout comme l'histoire autant que l'importance d'explorer
la
son passé.
C'est ça que la puissance de la création, dans la puissance de la création, on a ce mode de connaissance sensible où la sensation, où le corps participe un peu de la construction de l'idée. L'idée, c'est des saveurs, des odeurs, des senteurs, c'est des perceptions, c'est des sensations, c'est des images. Et ça, c'est de la création. Et puis, à côté, on a besoin de la démarche scientifique qui nous aide à débroussailler, à ordonner, à approcher de manière correcte la complexité impensable du réel. Mais on a besoin des deux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a vite fait de donner la parole au mode de connaissance, à la fameuse expertise, et on perd tout le poétique de l'existence. Parce qu'il y a un mode poétique de connaissance. Je pense qu'il y a... Et ce mode poétique ne sera peut-être pas donné par l'historien, bien que... Je pense que l'historien de la relation sera... Il ne peut pas ne pas avoir une touche poétique dans sa manière de faire.
Vous avez raison. Non, mais il y a de la poésie dans la démarche historique, avec cette poésie que l'on retrouve aussi dans votre œuvre, que peut littérature quand elle ne peut. Et puis la réédition d'Une enfance créole, vous voyez, là aussi, cette démarche est exceptionnelle dans la recherche des traces. Bah, tenez, Patrick Chamoiseau, je vous propose une trace.
Le carnaval de la Trinidad me rappelle le carnaval de la Martinique, qui débute au lendemain de Noël pour s'achever le mercredi des cendres, quand les parures bariolées de la foule sont remplacées par des vêtements noirs et blancs. On se grime avec de la farine et du charbon.
C'est le temps du grand videt, unique dans toutes les Caraïbes, au cours duquel on enterre Baval. Voici un enregistrement qui peut évoquer la liesse martiniquaise.
Nous étions en 1953, c'est votre année de naissance, Patrick Chamoiseau, avec Blaise Sandrars, l'évocation de la liesse martiniquaise. Parce qu'il y a aussi cette réflexion à avoir sur les traces. Comment éviter que ces traces ne deviennent, et j'utilise un mot que j'emploie avec des guillemets, folklore. Vous voyez le danger, comment figer en fait un passé à travers ces traces.
Oui, c'est toute la difficulté qu'on a eue dans ce maelstrom anthropologique culturel, ce mélange d'imaginaire et de symbolique, a donné naissance à une culture populaire, à des dynamiques populaires très intenses, musicales, corporelles, etc. La difficulté, c'est que nous n'avons pas produit de connaissances scientifiques sur ça. Et quand une dynamique populaire culturelle n'a pas eu son discours scientifique, son organisation scientifique, elle se folklorise. Donc nous avons eu une terrible folklorisation de toutes ces dynamiques culturelles qui sont apparues dans la plantation. Et le carnaval, qui est une trace, pourquoi c'est une trace le carnaval ? Le carnaval, c'est une trace parce que comme les captifs africains qui étaient dans les plantations, on leur interdisait d'être africains. Aucun symbole, pas leur langue, rien. Il fallait qu'ils oublient complètement là, sinon, c'était la sauvagerie. Ce qu'ils étaient eux-mêmes n'étaient plus qu'une sorte d'animalité. Donc, il fallait qu'ils renaissent vers la civilisation blanche. Mais ils ont résisté. Et ils ont profité du fait que les Blancs, au moment du carnaval, libéraient comme ça, lâchaient les chiens, etc., pour eux-mêmes ressortir au moment du carnaval et libérer leur africanité. Dans l'extrait qu'on a entendu là, ils disent « papillon volé, papillon vol », nous volons, nous volons. Nous volons, ça veut dire nous prenons notre liberté, nous retrouvons ce que nous sommes, nous retrouvons ce que nous voulons devenir. Et effectivement, dans le carnaval, c'est un réservoir, c'est une trace, parce qu'il y a beaucoup de données culturelles africaines, beaucoup de données hybrides, de mélange, de reconstruction, de réinterprétation de dominantes occidentales qui ont été assimilées par les esclaves. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le carnaval, bien sûr de manière scientifique pour bien comprendre un petit peu les structurations, mais surtout de manière créative. Et il faut pour nous que le carnaval devienne un moment d'expression totale, c'est-à-dire quelque chose qui développe des stimulations esthétiques et artistiques qui puissent nous permettre d'élargir un petit peu notre perception du monde. Vous voyez, toutes ces notions-là sont absolument importantes.
Nous avons évoqué l'école, nous avons évoqué la bibliothèque. Hein, comme lieu de transmission, il y a la famille aussi. Patrick Chamoiseau, est-ce qu'il y avait une transmission de l'histoire dans la famille? C'est-à-dire que, est-ce que du côté de votre maman ou de votre papa, on vous disait, ben voilà ce que faisait ton grand-père, voilà ce que faisait ton arrière-grand-mère?
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des indications existentielles, mais il n'y avait pas de structure mémorielle collective. Il y avait un grand silence sur l'esclavage. J'ai jamais entendu parler de l'esclavage durant mon enfance. Et on sait qu'après les camps de concentration, la plupart des survivants ne racontaient pas. Mais ça a été pareil, un grand silence total sur la période esclavagiste qui a été renforcé par le fait que l'éducation historique et autres n'était purement coloniale. Ce qui fait qu'il y a eu une rupture, si on peut dire, une rupture de transmission, mais c'est normal parce qu'on n'est pas dans une culture atavique. Une culture atavique, c'est des millénaires et des millénaires de traditions qui, à un moment, sont transmises. Là, on est dans un peuple composite. On est né de la rencontre des Amérindiens, des captifs africains, des Européens, des immigrants. C'est un surgissement anthropologique inattendu. Et là, c'est toutes les traditions. Il n'y a pas de cosmogonie dans la culture antillaise. Ou alors, il y a les cosmogonies des Amérindiens, ceux des Africains, etc. Il n'y a pas de mythe fondateur. Il y a tous les mythes fondateurs. Donc, c'est cette complexité-là qui est particulière et qui nous amène à cette nécessité de réfléchir sur ce que peut être une mémoire relationnelle. Lorsqu'on vit en espace relationnel, c'est-à-dire quand les histoires, les mémoires, les symboles, les langues, les dieux se chevauchent, se mélangent, comme ce qu'on vit aujourd'hui dans les... Comment organiser la transmission, quelle transmission, etc. C'est ça toute la problématique contemporaine. C'est pourquoi je dis aux gens... Notre problème, c'est véritablement la relation. L'imaginaire de la relation, c'est ce qui nous permettra de comprendre la complexité dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui nous permettra de dresser des remparts de ceux qui craignent la relation. Trump, il craint la relation. Il veut se couper, fermer les portes et les fenêtres, s'enfermer dans une logique économique barbare. Tous ceux qui racontent des problèmes de grand remplacement, tous ces racismes, toute cette extrême droite, c'est la peur de la relation. On sent que le monde est là, que la diversité rentre dans un processus d'interpénétration et on veut fermer les portes et les fenêtres. Parce que nous n'avons pas la culture de la relation, nous avons la culture communautaire avec mon histoire, ma peau, mon Dieu, etc. Et tout ça a volé en éclats. Et c'est pourquoi il y a quelqu'un qu'il faut absolument célébrer, c'est Victor Ségalen. Ségalen, c'est un officier de marine, un breton, qui arrive comme ça dans la diversité coloniale, enfin, il est dans le processus colonial, et il est tout de suite ému par la diversité. Il rencontre des différences, mais il dit, mais ce qui risque de se passer de plus terrible dans les temps qui viennent, c'est la disparition de cette diversité. Pierre Loti, qui était à peu près dans le même... Lui, il n'avait pas ce problème. Lui, c'était un colonialiste. Il voyait une sorte de folklore, d'exotique, comme ça. Il faisait des collections de toutes espèces d'objets. Mais Ségalen avait immédiatement eu, je dirais, l'intuition de la relation. Il a dit, mais la richesse humaine, c'est toutes ces différences-là. Toutes ces différences-là. Et il a eu aussi quelque chose qui est absolument important. Il a dit, faisons l'aveu d'impénétrabilité. C'est-à-dire, n'essayons pas de réduire la transparence, la différence à la transparence. Admettons que nous n'allons pas tout comprendre de celui, que l'obscurité, que l'opacité de l'autre fait partie de la construction relationnelle que je dois avoir avec lui. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? On entend parler d'intégration. Intégration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire désintégration. Pour que je t'accueille chez moi, il faut que tu deviennes transparent, que tu deviennes comme moi. Et ta différence, on n'en a pas besoin. Alors, il faut que tu deviennes français, que tu oublies toutes tes traditions, tu te ranges, etc., etc. C'est de la folie. Parce que on voit bien que ce qui va faire la puissance d'une société ou d'une nation, c'est sa capacité à métaboliser la diversité des expériences humaines. Et quand je dis puissance, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le pouvoir et la force. La puissance, c'est une très haute concentration de possibilités de devenir et de lignes de fuite. C'est ça la puissance. Et vous voyez, toute cette esthétique-là, c'est ça que j'essaye d'expliquer dans que peut littérature. La littérature peut nous aider à vivre cet imaginaire de la relation, à fréquenter l'impensable, à nous habituer à l'incertain, à sortir de ces absolus linguistiques, phénotypiques, historiques, machin, pour entrer dans une complexité nouvelle, parce que c'est dans cette complexité nouvelle que nous aurons les effervescences et les dynamiques créatives dont nous avons besoin pour sortir des grands défis, d'abord nous opposer à Trump, mais sortir des grands défis climatiques, numériques et autres qui nous attendent.
Et puis on peut construire les murs les plus hauts possibles. La littérature, elle est là pour elle faire la rencontre. Et on voit cette rencontre avec le présent, Patrick Chamoiseau, et cette rencontre avec le passé aussi, parce que la transmission, elle est présente dans vos différents romans, que ce soit Une enfance créole, que ce soit Le vent du Nord dans Les fougères glacées, je pourrais toutes les donner, hein, que ce soit le Dimanche au cachot ou Texaco. Votre mère n'est jamais loin. La transmission est toujours là, et est-ce que vous permettez que j'ajoute donc l'histoire à cette possibilité de rencontre ? Mais je le sais, parce qu'avec tout ce que vous venez de dire, l'histoire, c'est la littérature, c'est main dans la main.
Nous avons besoin des nouveaux historiens, des historiens de la relation. Nous avons besoin de Patrick Boucheron, Singara Velou, des grands historiens antillais comme Gilbert Bagot, Jacques-Adélaïde Merland. Enfin, il y en a beaucoup qui sont absolument extraordinaires et qui commencent à construire cette complexité nouvelle. Nous avons besoin d'une histoire de la relation.
C'est très beau. Écoutez, on va dire que c'est au-delà d'un appel, c'est-à-dire c'est le soutien de Patrick Chamoiseau à ce mouvement qui est là et qui est porté et que on va retrouver dans vos ouvrages. Que peut littérature quand elle ne peut ? Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup, Christophe Chassol, avec ici cette voix portée, une voix fondatoire qui nous conduit ici à réfléchir sur l'ensemble des arts. Parce que quelque part, l'histoire, c'est une forme d'art avec la littérature et avec ses chansons à toi.
Oui, je ne vois les paroles. Là. Et comment là ?
Juste un petit bout.
À moi, levé le matin, moi qui prends un bout de côte là, moi qui marie et moi. Gardez son nid au moins. Décisez moi fini. Mon cap encore ouah. Mon cap monte. Mon cap levez moi. Au moins mon décourage à la divinité. Oui, paye pas moi. Oh mon Dieu. Pour moi, pas ça sentir. En misère moi. Moi levé le matin, moi qui prends bout de côte là, moi qui marie moi, pour moi il fait très moins, gardez son nid au moins. Moi levé le matin, moi qui prends bout de côte là, moi qui marie moi, pour moi il fait très moins, gardez son nid au moins. Moi levé le matin, moi qui prends bout de côte là, moi qui marie moi, pour moi il fait très moins, gardez-en.
Christophe Chassol, Où est brillé dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui la technique Grégory Wallon. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, il nous semblait important de rendre un hommage à un médiéviste qui nous a quittés de manière brutale, Martin Aurel. Martin Aurel qui venait de recevoir un prix pour son Aliénor d'Aquitaine. Martin Aurel qui est venu plusieurs fois dans le cours de l'histoire. Bonjour Michel Zinc.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire littérature de la France médiévale, membre de l'Académie française.
Le mérite. Hein.
Bah, oui, mérite.
Je suis vieux.
Mais vous le méritez.
D'être vieux, oui.
Michel Zinc, dites-nous. Qui est Martin Aurel, pour vous ?
Martin Aurel, très très grand historien, mais d'abord un homme extraordinaire de chaleur, de capacité d'amitié, de capacité de contact, d'ouverture, d'une façon d'assumer des convictions qui étaient fortes, sans jamais rien imposer, sans indiscrétion, en étant toujours attentif à tous, et une ouverture aussi dans sa façon d'aborder sa discipline, qui est, vous parliez à l'instant avec Patrick Chaboiseau de du lien entre littérature et histoire, eh bien, Martin Aurel l'illustrait parfaitement. Je le sentais comme un complément de moi-même et un petit frère. Il était beaucoup plus jeune que moi, mais nous connaissions depuis si longtemps. Et parce que il avait vu tout de suite, lui, le Catalan, ce qui l'intéressait de la poésie politique des troubadours et pas seulement amoureuse dans son premier grand livre La Vielle et l'Épée, à ce moment où les rois d'Aragon étaient comtes de Provence et où ça passait avec les Angevins. Et Aliénor d'Aquitaine est un personnage qui a une grande influence dans tous les domaines, naturellement. Et il avait préfacé présenté avec Michel Pastoureau une anthologie de romans arthuriens qui est, dont son introduction est particulièrement intéressante parce que il a une sorte de précision historique pour éclairer la préhistoire de cette littérature qui est avec une clarté, une attention là encore à être compréhensible de tous qui est vraiment admirable. Mais tout le monde aimait Martin Aurel. Ça a été un tel choc à sa disparition, non seulement parce que c'était un grand historien et qu'il est mort subitement, brusquement, il est mort une nuit et voilà, mais aussi parce que ça n'a rien d'original. Tout le monde aimait Martin Aurel, se sentait proche de lui, était aidé par sa seule présence.
Oui, Martin Aurel avait 66 ans. Hein. Il disparaît et c'est vrai que on le sent dans les réactions. Et vous, Michel Zinc, c'est tout de suite ce que vous évoquez, c'est son humanité, sa bienveillance. Oui. C'est bête à dire, mais c'est important aussi dans ce champ disciplinaire qu'est l'histoire.
C'est important partout, c'est important pour la vie. Si tout le monde était comme Martin Aurel, le monde serait plus paisible et plus agréable à vivre. C'était quelque chose de familial. Il a un frère qui était tout aussi charmant. J'avais eu la chance de rencontrer ses parents à Barcelone. C'est une famille extraordinaire, les Aurel.
Oui, c'est ça. Hein. C'est ce monde de la Catalogne jusqu'à l'université de Poitiers, bien sûr, là où il enseignait, avec, et on le voit bien ici, une vive attention portée à l'autre. Je le dis simplement, mais Martin Aurel a toujours été très attentif au bien-être des autres. Je vais vous faire, c'est pas une confidence, mais je vais vous dire, la dernière fois qu'il était venu, il avait du mal à se déplacer, à déplacer des cours, c'était très compliqué, on a imaginé faire l'émission à distance. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, cher Martin, c'est mieux quand vous êtes présent. Et il n'a pas réfléchi, il a dit, je vais me débrouiller. Parce qu'il avait vraiment cette attention à l'autre, et dans ces études d'histoire, quand on est professeur, quand on conduit des étudiants, c'est très très important.
Eh oui, ça, pour un professeur, c'est essentiel. Et il a aidé des étudiants français, des étudiants étrangers. Il suscitait une fidélité. Les gens, les étudiants avaient besoin de lui. Et nous aussi, même, encore une fois, des vieux comme moi qui n'avions pas directement besoin de lui. Eh bien, nous en avions besoin quand même. Moi, j'avais besoin de l'appui de Martin Aurel, de son approbation, d'une certaine façon, de sentir que je pouvais toujours compter sur lui, comme tout le monde.
Avec l'histoire aussi, qui a bénéficié de ses travaux. Parce que les travaux de Martin Aurel, et on a cité son Aliénor d'Aquitaine, qui est son dernier ouvrage, et puis ses travaux sur les troubadours, ça fait partie d'un moment de l'historiographie. Martin Aurel, c'était en 1989, les lundis de l'histoire.
Le Moyen-Âge est une société qui intègre, qui insère les personnes dans des groupes sociaux, que ce soit la famille, que ce soit la corporation professionnelle, que ce soit le statut social qui est le vôtre, la noblesse, la paysannerie, le clergé, et les personnes sont extrêmement solidaires. Mais en même temps, ils savent qu'il y a à côté d'elles des communautés différentes, y compris des communautés religieuses autres. L'exemple d'Al-Andalus est frappant, puisqu'il y a la coexistence des trois monothéismes. Mais en Occident aussi, les communautés juives ont été toujours acceptées, tolérées, même si le mot n'existe pas, évidemment.
Ah là, c'est Martin Aurel récemment, dans le cours de l'histoire en 2023, avec ce regard porté sur le Moyen-Âge d'une clarté. Martin Aurel qui explique le Moyen-Âge, c'est formidable.
Énormément, oui. Vous avez tout à fait raison. C'était un esprit extraordinairement clair, mais c'est... Si je puis dire, il y a un lien entre ses qualités intellectuelles et ses qualités morales. Il est clair parce que il se met à la place de son auditeur, à la place de ceux qui ne savent pas forcément, mais il ne fait pas le malin en les écrasant de sa science, il ne les instruit pas en leur montrant que lui, il vient de très loin et que finalement, il consent à leur faire. Il se met à leur place, il parle comme eux, et il a raison parce que il y a une sorte, dans des disciplines qui ne sont pas les mathématiques pures, il y a une sorte d'égalité face à tous ces sujets. C'est des choses que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut aimer, mais il suffit de le savoir et de ne pas jouer au prof. Eh bien, il ne jouait pas au prof.
Il ne jouait pas au prof et il ne jouait pas, quand nous discutions avec lui, en faisant semblant. Il était, tellement intègre, tellement droit. C'est les réactions qui apparaissent, on l'a vu sur les réseaux sociaux à l'annonce de son décès. Tout le monde mettait en avant vraiment cette relation humaine extrêmement chaleureuse.
Oui,
Avec nous aujourd'hui, Maïté Biloré. Bonjour Maïté Biloré.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et dans l'apport de Martin Aurel à l'histoire et dans sa relation avec ses élèves, il était important de souligner combien ici nous avions un personnage qui est remarquable.
Oui, remarquable. Il était d'une extrême gentillesse avec nous, beaucoup de disponibilité. Et surtout, il avait cette capacité à fédérer, à faire de nous une vraie équipe. Et donc, c'était vraiment très, très agréable de travailler avec lui.
Très agréable. Vous avez, été une de ses étudiantes. C'était quoi, aller en cours avec Martin Aurel?
Alors en cours, c'est très vieux. Moi, j'ai été étudiante de Martin Aurel au début des années 90. Donc voilà. Mais ce qui m'a marqué plus que les cours, parce que les cours étaient classiques, je dirais, mais c'est surtout son travail après, lorsqu'on était en thèse, le travail collectif, cette capacité qu'il avait à nous fédérer. Je pense qu'il aimait beaucoup être entouré de jeunes. Il aimait bien cette espèce de bourdonnement continuel là autour de lui, notre enthousiasme de débutant, l'agitation intellectuelle que tout ça crée.
C'est ça qui est important pour terminer. Juste, Michel Zinc, peut-être dire, lisons Martin Aurel, simplement. On retrouve sa vigueur intellectuelle et sa générosité dans ses écrits.
Oui, ces grands livres sont des livres qui peuvent intéresser tout le monde et qui apportent beaucoup aux spécialistes, entre guillemets. Eh bien, c'est ça, le talent du savant et du professeur.
Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire pour évoquer Martin Aurel. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier, Marie Soisic, Fraboulet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire retrouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.